7 milliards de voisins.
On est ensemble avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, 7 milliards de voisins à l'heure d'été. Bienvenue pour cette deuxième étape de notre série Vivre en ville. Après Montréal, la ville émancipée, retour à l'ordre, Made in China. Aujourd'hui, vivre dans une ville brûlante au pied du réchauffement climatique, Wuhan, la ville la plus chaude de Chine. Bonjour Emmanuel Linco.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Chine à l'Institut catholique de Paris. Vous avez vécu dans cette ville industrielle, 8e ville du pays, donc pas vraiment un trou paumé hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi une ville au pied du réchauffement climatique? C'est vous qui avez choisi le titre.
Bien, déjà géographiquement, pour nos auditeurs, il faut le rappeler, c'est une ville qui est à mi-chemin entre le littoral, mais quand même à 1000 km de Shanghai, grosso modo, et à 1000 km à l'ouest du Tibet. Et donc on est en fait au trou, au milieu, au fin fond de la cuvette, je dirais. Et donc c'est un lieu de convergence, mais aussi un lieu effectivement très très chaud l'été et très froid l'hiver.
Alors c'est une ville qui veut se transformer en ville éco-durable, en laboratoire où l'on expérimente l'adaptation au changement climatique. Vous allez nous dire à quoi ça peut ressembler dans une ville chinoise. Ce ne sont pas tout à fait non plus les orientations historiques du pays. Vous avez publié Chine, une nouvelle puissance culturelle chez MKF Éditeur. Vivre à Wuhan dans le centre-est de la Chine, c'est vivre dans une mégalopole de plus de 10 millions d'habitants. Vu de loin, c'est vrai qu'on pourrait se dire que toutes ces grandes villes chinoises se ressemblent finalement.
Oui, c'est vrai. C'est pas la plus grande non plus. La plus grande, il faut le rappeler, c'est Chongqing, hein, beaucoup plus à l'ouest avec ses 34 millions d'habitants. C'est-à-dire que vous avez la moitié d'une population française qui tient en une ville.
Ouais, c'est même donc, pas Shanghai et Pékin.
Donc c'est même pas Shanghai et Pékin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, sans doute, depuis la France, Wuhan n'a finalement que très peu de visibilité. Or, c'est une ville hyper importante, vous l'avez dit, sur le développement durable. C'est une ville pilote et on va y revenir, mais aussi sur le plan historique pour la Chine.
Alors justement, on va essayer de comprendre, d'imaginer aussi avec vous, Emmanuel Linco, si on respire mieux à Wuhan qu'à Pékin ou Shanghai, et surtout comment les autorités chinoises se projettent dans la ville éco-durable, quelles conséquences aussi au quotidien pour les habitants. Une ville éco-durable qui se construit, entre autres avec des entreprises françaises, d'ailleurs elles sont très nombreuses à être installées à Wuhan depuis une vingtaine d'années. Groupe rock Wuhan, on est avec vous Emmanuel Linco. Alors vivre dans une ville brûlante au pied du réchauffement climatique, Wuhan en Chine, vous nous le disiez, 8e ville de Chine, près de 10 millions d'habitants. On n'est pas du tout dans une ville de dépliants touristiques.
Non, pas vraiment. En plus de ça, c'est une ville qui longtemps a été un énorme complexe sidérurgique, donc hyper polluée. Une ville, on l'a dit, avec des amplitudes thermiques absolument démentes. Donc à tout point de vue, c'était la ville des renégats. Et quelque part, ça reste encore, d'un point de vue de l'image, une ville à la fois rebelle et une ville que l'on craint, y compris pour ses habitants, parce que ce sont des gens qui se vivent et surjouent leur côté « nous sommes à part ». Voilà.
Et alors revenons au climat quand même, ouais. Ces fameuses températures, vous les avez testées, vous les avez vécues?
Alors moi je les ai testées effectivement dans les années 90, à une époque où il n'y avait pas de clim, ou très peu. Et donc ça paraît à des années-lumière, mais c'était tangible dans la vie de tous les jours. Par exemple le soir, en cette saison, donc juin, juillet, août, eh bien l'on sortait les matelas dehors sur les trottoirs, et la nuit vous aviez des métiers quartiers de rue qui ont totalement disparu depuis lors, distributeurs d'eau, distributeurs de lumière. Et donc, touche-touche, vous aviez plusieurs dizaines de familles qui vivaient ainsi sur les trottoirs.
Au moment de la canicule, parce
au
que cette canicule,
canicule
c'était de quel ordre?
Ah, c'était 45 et la température ne baissait pas dans la nuit. Ouais. Donc c'était quelque chose d'incroyablement dur.
C'est ça. Et les autorités chinoises à l'époque d'ailleurs, qui communiquaient assez frileusement sur ces températures, non?
Bah, disons qu'il y a une législation au-delà, je crois, de 35 degrés. Théoriquement, vous avez le droit de ne plus aller au travail. Mais évidemment, même la météo en Chine est truquée hein, d'une manière générale. Et ça a toujours été le cas.
Alors, ce climat, donc, il est très difficile. Pourquoi Wuhan s'est retrouvé au pied du mur, au pied du réchauffement climatique, finalement?
Ben, c'est devenu une ville pilote pour les autorités parce que ça tient évidemment à la centralité même politique de Wuhan. C'est-à-dire que Wuhan, on l'a dit en introduction, c'est une ville située véritablement au centre. Et donc, si vous délaissez le centre, vous marginalisez également le pouvoir par rapport à des choix qui sont cruciaux. C'est pas seulement de la rhétorique, c'est-à-dire depuis plusieurs années, effectivement, on a un gouvernement central qui veille à axer le développement durable avec des industries beaucoup moins polluantes. Et la COP21 en fait foi, bien sûr. Et de ce point de vue-là, Wuhan est une ville pilote parce que nombre d'industries étrangères et françaises en particulier participent au développement, justement, éco-durable de cette conurbation.
Ça veut dire qu'on est vraiment dans un univers de béton, de gratte-ciel. Est-ce que malgré tout, il y a un peu de vert à Wuhan?
Alors, il y eut du vert grâce à des parcs, effectivement, assez importants, mais aussi un campus universitaire historique qui a été un lieu, d'ailleurs, de la rébellion étudiante en 1989, Wuhan Tashui, c'est ainsi qu'on l'appelle. Mais avec ces projets initiés notamment par les Français, il serait question de restructurer la ville autour de nouvelles parcelles vertes et essayer de conjuguer à la fois milieu urbain et milieu rural. C'est le cas notamment d'une banlieue proche de Wuhan, qui est un lieu d'expérimentation architecturale du nom de Caixian et qui sera relié dans quelques mois par une ligne de métro.
Donc c'est ce qu'on appelle des éco-quartiers, finalement. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire pour le pouvoir chinois se mettre à la ville durable dans l'esprit chinois?
Ben, c'est une question d'hygiène hein, et de salut public hein, véritablement, parce que on le sait, les taux de cancer ont explosé, les problèmes de trachéite et autres dans toutes les villes de la Chine, et donc le risque évidemment, c'est qu'il y ait à terme instabilité sociale, donc politique, parce que le régime n'aurait pas réagi à temps par rapport à ces problèmes environnementaux. Donc on le voit, la Chine doit être véritablement prise au mot dans cet effort colossal qui est le sien depuis plusieurs années. Ça a commencé bien avant l'actuel président Xi Jinping, de vouloir assainir évidemment l'environnement, sachant que toutes les nappes phréatiques sont surpolluées, sachant que l'air est surpollué également. Il ne faut pas oublier qu'à Wuhan, il y a encore quelques années, vous inhaliez l'équivalent de 3 paquets de cigarettes par jour. Donc imaginez évidemment l'état de smog général dans lequel vous évoluez. Ouais. Et donc les choses vont un peu mieux depuis ces dernières années, notamment grâce à ces initiatives
franco-chinoises. On vous sent assez prudent sur l'amélioration quand même, en tout cas pour les habitants. Alors on va essayer de comprendre justement d'où on vient hein, par rapport à cette ville qui était une ville industrielle et quelle a été l'évolution et comment la ville tente de se désindustrialiser aussi. Vous reconnaissez ce film?
C'est Wang Xiaoshuai, qui est un cinéaste important de la sixième génération, donc qui a commencé à œuvrer au début des années 90, et dont le film, traduit en américain par So Close to Paradise, est un film sur les bas-fonds de Wuhan, et par là même, les milieux ouvriers de plus en plus déclassés, alors que la classe ouvrière avait été l'enfant chéri du régime à partir des années 50. Donc Wuhan a très largement souffert aussi de cette désindustrialisation en cours, et donc toute une partie de la population s'est trouvée totalement lésée. Et donc, les autorités centrales et les autorités provinciales du Roubaix ont mis en œuvre une nouvelle politique qui tente à faire de Wuhan précisément une ville éco-durable, donc une ville de ce point de vue-là exemplaire, mais aussi une ville, il faut le rappeler, connectée à un projet beaucoup plus vaste d'une ampleur internationale, les nouvelles routes de la soie. Mmh. Parce que la grande gare de Wuhan tente à devenir un hub interferroviaire entre notamment la Chine et plus lointainement Duisbourg en Allemagne.
Mais d'où vient cette volonté de désindustrialiser la ville ? C'est à cause du réchauffement climatique ou bien ce sont des stratégies économiques beaucoup plus larges avec le fait qu'aujourd'hui on arrive beaucoup plus à des économies de services, le digital, le numérique, etc.
Absolument, l'économie chinoise se tertiarise, se numérise hein, et donc cet énorme complexe sidérurgique qui avait été la fierté de Wuhan et de la Chine en général, comparé en cela aux autres grands complexes qui avaient été construits par les Japonais dans les années 30 dans le nord-est de la ville, tout cela fait partie désormais de l'histoire.
Dans l'histoire aussi, on a commémoré il n'y a pas très longtemps, on l'a beaucoup, nos auditeurs l'ont beaucoup entendu sur RFI, les 30 ans de la révolte de Tiananmen, des étudiants à Pékin. Et Wuhan n'a pas été une ville étrangère à ces événements-là.
Non plus que toutes les villes chinoises, mais avec une particularité, c'est que lorsque Deng Xiaoping, à la fin du mois de mai, quitte clandestinement,
donc on est en mai 89.
On est en mai 1989. Quitte la capitale, Pékin, il se rend à Wuhan pour obtenir l'appui de l'armée chinoise. Appui qu'il obtiendra en vue d'écraser le mouvement estudiantin de Tiananmen à Pékin le 4 juin. Donc c'est une ville importante et elle l'a toujours été dans l'histoire du régime et l'histoire des révolutions de la Chine. C'est-à-dire que successivement, pour aller vite, Wuhan est marqué par la première grande révolution de 1911 qui met fin tout de même à 2000 ans de régime impérial. Ça commence à Wuhan, précisément. Et beaucoup plus tard, Mao Tse-tung va symboliquement traverser le fleuve bleu qui traverse précisément la ville pour rappeler qu'il est toujours aux ordres et que par sa force et sa prouesse physique, il est en mesure de réunir toujours et encore l'ensemble des Chines, la Chine du Nord et la Chine du Sud. Et cet acte de bravoure annoncera par là même le déclenchement quelques années plus tard de la révolution culturelle.
Alors aujourd'hui, la grande question, c'est qu'est-ce qu'une ville durable à la chinoise, avec des expérimentations dans cette ville de Wuhan. Les autorités affirment dans les communiqués de presse que le monde urbain doit renouer avec la nature et la campagne. Ça laisse quand même assez songeur, non ?
Ça laisse songeur. Alors, on peut ironiquement y voir, c'est vrai, une forme de propagande. Hein, et clairement, il y a des référents dans cette forme de discours assez lénifiant à un fond idéologique néo-confucéen. On parle souvent de société harmonieuse, de civilisation écologique aussi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire effectivement, et les Français ont pris justement le la de ces initiatives chinoise, ça veut dire réenchanter quelque part la ville, faire en sorte qu'il y ait moins de clivage entre le monde rural et le monde urbain, ce qui est difficile et en cela, Wuhan est un lieu d'observation tout à fait intéressant, parce qu'il faut bien imaginer qu'en 30 ans seulement, la majorité de la population chinoise est devenue urbaine, alors qu'elle était, il y a 30 ans, majoritairement rurale, avec tout ce qui s'ensuit et qu'a connu l'histoire française aussi, par comparaison. C'est-à-dire les congés payés, c'est-à-dire les vacances, c'est-à-dire une économie de loisirs. Donc vous avez une flopée de magasins qui sont apparus, qui étaient inexistants jusqu'alors, des magasins de jouets, des magasins de restauration, surtout dans un pays aussi lugubre qu'était la Chine de Mao et même bien des années plus tard, où toute l'économie était collectiviste bien sûr. Donc il y a eu à partir des années 90 une sorte d'éveil très baroque d'une Chine foisonnante, multicouleur, je dirais, sympathique fondamentalement, faisant de Wuhan un lieu d'expérimentation de toutes sortes et aujourd'hui axé effectivement sur le développement durable, le réemploi de matériaux qui étaient jusqu'alors totalement délaissés, je pense par exemple aux matériaux bois. Pas vraiment pour le coup à la gare de Wuhan, mais à la gare de Chengdu. Vous avez un consortium français d'architecture, l'ARP, qui a conçu entièrement la gare en bois. Ce qui est quand même assez extraordinaire quand on sait que ce pays importe massivement du bois pour cause de déboisement national.
Oui, c'est ça. Les Chinois sont donc capables de tout, avec l'aide de la France, hein, puisque la France, il y a des accords, le premier accord franco-chinois sur le développement durable date de 2007. C'est une ville où même avant que la ville soit au pied du réchauffement climatique, dans les années 90, avec l'industrie automobile, il y avait déjà Peugeot, Citroën qui était arrivé en 92. Donc c'est vraiment une ville d'entreprises françaises qui concentre 40% des investisseurs français qui sont installés à Wuhan. C'est assez étonnant, personne ne le dit, personne ne le sait d'ailleurs.
Oui, et d'ailleurs, la décision de localiser sous la forme d'un hub le gros des industries françaises en Chine commence avec Giscard, donc dès la fin des années 70, qui d'abord avait souhaité des autorités chinoises obtenir Shanghai comme lieu justement privilégié. Or, Shanghai, dans l'imaginaire politique et culturel des Chinois, c'est lié à l'histoire des concessions étrangères, donc l'histoire d'une aliénation de la Chine par rapport à ses puissances étrangères. Et donc, les autorités chinoises de l'époque lui avaient dit non, ça sera Wuhan. Et depuis lors, non seulement effectivement PSA s'y est développé, l'université où j'avais moi-même enseigné comme lecteur en faisant ma coopération forme chaque année des contingents de francophones et de traducteurs, mais c'est assez peu connu en effet parce que, encore une fois, cette ville, curieusement, n'a pas d'image à l'étranger.
Ouais, ce ne sont donc pas les entreprises françaises qui ont choisi de s'y installer. C'est le pouvoir chinois qui a dit ça sera là ou nulle part ailleurs. C'est bien ça.
Oui.
Et donc maintenant, on a des entreprises comme L'Oréal, comme Total, comme des banques. Est-ce que cet aspect-là francophone de la ville, il est perceptible à l'œil nu ou totalement invisible, noyé dans la masse des 10 millions d'habitants ?
Pour être sincère, il est assez peu visible. Pour une raison simple, c'est que les Chinois veillent justement à ce qu'il n'y ait pas de signe extérieur d'étrangeté. Pour des raisons liées à leur histoire, ça c'est évident. Et puis parce que, et c'est assez contradictoire avec ce que l'on a dit par rapport à la formation d'une ville éco-durable, les villes chinoises depuis fort longtemps sont ségrégées. Donc il y a une forme de discrimination qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que les étrangers sont avec les étrangers.
Dans un quartier spécifique.
Dans un quartier spécifique, et c'est vrai aussi pour cette ville qui accueille en périphérie même de Wuhan les industries françaises, la ville de Caixian. C'est une ville pratiquement non chinoise, si vous voulez. Donc c'est assez
l'éco-quartier donc, hein, c'est ça.
L'éco-quartier en question qui est destiné finalement à des étrangers comme une sorte de projet Potemkin, hein, c'est-à-dire de projet propagande. Je le pense sincèrement.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Nous accueillons une professeure de chinois en France au lycée Michel Montaigne à Bordeaux. Bonjour Nathalie Martinez.
Oui, bonjour à vous deux.
Emmanuel Linco est avec nous dans le studio. Nathalie Martinez, vous êtes professeure de chinois au lycée Montaigne à Bordeaux et vous faites partie de ces professeurs qui organisent régulièrement des échanges de lycéens, d'étudiants. Comment se porte concrètement la francophonie dans cette ville Wuhan dont nous ignorons tout dans l'Hexagone?
Oui, alors d'abord, je voudrais préciser, malgré l'exposé très complet de Monsieur Linco, que Wuhan est la ville jumelle de Bordeaux. Et donc le lycée Montaigne a un jumelage qui a déjà plus de 20 ans avec un lycée de Wuhan qui est très connu en Chine, qui s'appelle le lycée des langues étrangères, en chinois Wai Guo Yu Xue Xiao. Donc c'est un lycée où on forme depuis les années 60 toute une génération de futurs ensuite interprètes, traducteurs, etc. Le jumelage que nous avons commence à devenir assez connu. Nous avons accueilli au départ dans les années 90 des élèves chinois qui étaient scolarisés chez nous en première et en classe préparatoire. Et depuis 2006 exactement, nous avons maintenant des élèves français, des lycéens de première ou de seconde qui partent vivre un an en Chine dans le lycée chinois.
Ah oui. Et voilà, quand ces jeunes français débarquent à Wuhan, comment ils réagissent? Quel est leur regard?
Alors, ils sont en général deux ou trois. Parfois tout seul, c'est arrivé. Ils ont une sorte de choc culturel malgré la préparation qu'ils ont avant de partir. Ils apprennent un petit peu le chinois en troisième langue, donc je leur donne des bases aussi sur la culture chinoise. ce qui les attend, mais plutôt, on pourrait parler plutôt de surprise, parce que évidemment, pour eux, c'est la grande aventure.
Ouais, le plus difficile pour eux, c'est quoi ? Alors soyons, n'hésitez pas à être trivial, hein. C'est quoi le plus compliqué quand on a 17 ans, 18 ans, de débarquer en cours, dans un lycée chinois à Wuhan, dans une famille, chez des gens qui sont pas forcément très internationaux ?
Alors, encore une fois, ils sont préparés à certains us et coutumes chinois de la vie quotidienne, le fait que les gens dès le matin mangent salé, qu'il y ait des odeurs assez fortes qu'ils connaissent pas. Bon, vous avez aussi des lycéens chinois qui sont dans une vie qui a rien à voir avec celle des lycéens français. Ils sont en cours dès 7h du matin. Avec un seul objectif qui est de réussir le concours du baccalauréat. Oui. En Chine, c'est un concours. Oui. Donc nos élèves, souvent, dans les premières semaines, mesurent vraiment ça et se retrouvent parfois un petit peu avec un sentiment de solitude.
Oui, parce que pression scolaire énorme pour ces jeunes Chinois. Alors ça, c'est pas propre à Wuhan, mais vous, quel est votre... Vous avez vécu d'ailleurs ailleurs qu'à Wuhan, vous avez vécu à Pékin, mais quel est votre regard sur cette ville, Wuhan, Nathalie Martinez?
Alors, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Emmanuel Linco, c'est-à-dire que c'est une ville qui est énorme, qui est hyper industrialisée, donc vous avez très peu d'espace vert. En même temps, il s'en dégage une animation assez typique aussi des grandes villes chinoises. Le lycée avec lequel on échange est situé en centre-ville, dans la vieille ville en fait de Hankou, puisqu'il y a trois villes en une. Hein. C'est quand même un lieu un peu particulier parce que vous avez un parc juste derrière, vous avez encore des gens qui pratiquent le matin, vous savez, le tai chi chuan, ce genre de choses. Donc ça reste quand même assez paradoxalement traditionnel. Voilà. Mais c'est quand même effectivement hyper pollué, très chargé par la circulation des voitures. Donc, effectivement, c'est une mégapole chinoise. Hein. Là,
Alors, on parlait de la désindustrialisation de la ville avec vous, Emmanuel Linco. Est-ce que ça, vous le ressentez quand vous discutez avec les habitants, avec les familles avec qui vous êtes en lien, Nathalie Martinez?
Alors, surtout ces derniers mois, avec la crise entre les États-Unis et la Chine, hein, la crise commerciale, il y a une vraie tension des parents qui sont souvent donc employés par des grandes sociétés internationales qui sont dans la situation Wuhan. Et donc les gens, oui, sont du coup un petit peu ennuyés, ils peuvent pas s'engager, faire partir forcément leurs enfants. Vous voyez, en France, on sent que...
Gens ont peur de perdre leur emploi, concrètement?
Oui, alors perte d'emploi, perte de salaire, oui, c'est une vraie réalité et... Ils voient d'un seul coup les choses changer autour d'eux.
Alors on dit toujours, Emmanuel Linco, que les habitants en Chine ont cette faculté d'adaptation, que le pays change tellement vite, que les immeubles peuvent se construire en quelques jours. Enfin, en tout cas, c'est l'image que l'on en a. Et c'est vrai qu'il y a cette rapidité-là, parce que très grosse pression aussi à l'exécution, à la réussite. Comment, dans la réalité des familles et des psychologies individuelles, finalement, comment tout ça se réorganise ?
Ben, sur le temps long, je dirais que Wuhan, ça a toujours été un lieu de passage, en fait. Et j'abonde tout à fait dans ce que vous venez de dire, savoir que, effectivement, bon, c'est vrai, les gens s'adaptent, mais en même temps, on est absolument convaincus que les choses ne sont pas pérennes. Et ça a toujours été aussi dans l'histoire de cette ville. Cette ville a été plusieurs fois capitale de la Chine, notamment pendant l'invasion japonaise. Hein. C'est une ville également qui a été marquée, comme Shanghai, par l'établissement de concessions étrangères, et notamment françaises. Et les étrangers, à un moment donné, sont partis et on s'est adapté. Et donc ça, effectivement, c'est assez prégnant dans l'histoire de la ville et de ses habitants. On dit souvent que les gens de Wuhan pourraient être comparés aux gens de l'Auvergne. D'ailleurs, ils sont toujours chargés des métiers qui ne sont pas toujours très attractifs, a priori. Mais ils ont une réputation d'être très durs en affaires.
C'est ça. Et courageux, donc. Hein.
D'être très courageux, effectivement. Et qu'il existe, de fait, une solidarité entre les gens du Hubei, la province, et de Wuhan en particulier, qui force le respect, une
Ouais. Nathalie Martinez, est-ce que ça vous le ressentez aussi quand vous venez à Wuhan ?
Oui, Par exemple, l'équipe des collègues qui travaillent avec moi donc sont des gens qui sont très bienveillants, très engagés, mais c'est vrai que c'est compliqué pour eux, notamment en plus avec la lutte anticorruption, de faire avancer les choses. Donc il y a une vraie solidarité.
Là, vous parlez des professeurs de français en Chine à Wuhan, hein, c'est ça?
Des professeurs de français de toute l'équipe en fait, administrative des Chinois. Et qui agissent, on a vraiment ce sentiment, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on est jumelés, qui ont vraiment cette notion aussi d'ancrage quand même dans l'histoire. Donc il y a à la fois un sentiment de cette certitude que ça va toujours pouvoir continuer dans de bonnes conditions, mais ils sont très très vigilants à ce qu'on garde le lien. Vous voyez là par exemple, on ne sait pas si des élèves chinois cette année vont pouvoir venir chez nous. Alors parce que, alors justement, je j'ai pas eu encore vraiment l'explication, mais il y a quand même la réalité économique dont je vous ai parlé juste avant.
Et oui, ça coûte cher pour les familles.
Exactement,
aussi.
Pour les familles, oui. Ouais.
Merci beaucoup.
Et puis la pression des études, voilà.
Merci beaucoup Nathalie Martinez d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes professeure de chinois au lycée Michel Montaigne à Bordeaux. Très bonne journée à vous. Emmanuel Linco, vous restez avec nous. Vous nous disiez, les habitants de Wuhan sont un peu les Auvergnats de la Chine. On veut en savoir plus. D'ailleurs, on ne parle pas que le mandarin à Wuhan, on parle le wuhanais. Et on a pas mal de choses à comprendre sur cette ville, sur cette culture, sur ce sentiment d'appartenance aussi dans cette ville du centre-est de la Chine. Nous sommes à Wuhan, au pied du réchauffement climatique dans la ville brûlante décrite par Emmanuel Linco, spécialiste de la Chine à l'Institut catholique de Paris. Emmanuel Linco, on vient d'entendre un rap wuhanais, donc qui chante en quoi d'ailleurs?
Qui parle wuhanais, ouais. Justement, c'est un groupe célèbre, hein, au-delà même de la province du Hubei et de Wuhan, qui s'appelle Tsai Wuhan, c'est-à-dire donc c'est une sorte d'affirmation de Wuhan, nous sommes de Wuhan. Comprenez. Et effectivement, il y a énormément d'élocutions, d'onomatopées, qui ont quelque chose à voir avec le mandarin. C'est quand même une langue proche du mandarin, mais avec de telles accentuations et de tels emprunts faits notamment à des langues situées beaucoup plus au sud, comme le cantonais, que c'est une langue à part. Et c'est une langue véritablement cryptée. Et très rêche, très, très rude. Et en cela, oui, assez
à l'image de l'histoire de cette ville
et
ouvrière,
absolument
dure au travail, dure en affaires, hein, finalement.
Absolument.
Alors vous nous disiez, les Wuhanais sont les Auvergnats de la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ça veut dire très âpre au gain, en tout cas.
Les Auvergnats, on va le préciser quand même pour nos auditeurs qui ne sont pas en France. Hein. Ce sont toutes ces familles qui ont ouvert des cafés, qui ont excellé dans le commerce de bouche en France, qui d'ailleurs maintenant sont remplacés souvent par des familles chinoises en France.
Souvent, oui. Il faut réécouter évidemment la chanson de Brassens à ce sujet, hein, sur l'Auvergnat, justement. Bon. Et donc, Comme partout en Chine, de ce point de vue-là, c'est pas quelque chose que Wuhanais, mais vous avez très souvent des sortes de guildes, de solidarité, de réseaux d'entraide qui se créent d'une ville, voire d'une région à l'autre, où l'on ne parlera que sa langue natale, d'origine, etc. Et donc les Wuhanais, effectivement, constituent un groupe identitaire véritablement à part. J'ai le souvenir de très belles rencontres avec des artistes de Wuhan, précisément, qui avaient non seulement un parler qui était le leur, que j'avais vraiment du mal au départ à comprendre, évidemment, parce que très distant du mandarin, très épuré, très lisse comme le serait le français tel que parlé à Paris, n'est-ce pas ? Et des gens qui étaient singulièrement attachés, effectivement, à des cultures très diverses, mais profondément localisées, précisément, dans la province du Hubei. Je pense à un artiste qui se fait prénommer le fantôme noir, Hei Gui, qui est un artiste tout à fait étonnant, un peintre, et qui interroge par le médium même de la peinture, tous les fantômes de la Chine et de son histoire, et notamment les fantômes les plus récents, ceux de la Révolution culturelle, voire même ceux de Tiananmen. Et il faut savoir qu'en cela aussi, Wuhan a été une ville très importante dans l'histoire des arts visuels, encore récemment pour la Chine, parce que le fameux pop art culturel dont on a tous vu des tableaux ici et là dans les galeries françaises et étrangères. Généralement, ce sont des héros positifs réalistes socialistes, mais avec la marque Coca-Cola, ce genre de choses. Bon, eh bien, cela a été inventé par Wang Gongyi, qui était par ailleurs originaire du nord-est de la Chine, mais qui longtemps a vécu à Wuhan et a expérimenté et lancé ce style de peinture.
Mais alors, finalement, bon, vous ne niez pas l'uniformisation urbaine de la Chine, toutes les villes en Chine se ressemblent. Et ce que vous nous décrivez là, c'est pour les initiés, hein, c'est pour ceux qui savent déjà aller...
Oui et non, parce que malgré tout, et comme le disait notre collègue tout à l'heure Nathalie Martinez, il y a encore évidemment des vestiges architecturaux, des bâtiments signes qui rappellent justement la singularité de cette histoire. J'en veux pour preuve une grande artère qui s'appelle la Chunshan Tataolu, c'est-à-dire donc en hommage à Sun Yat-sen, le père de la révolution chinoise et celui qui a créé la première république juste après justement la révolte de Wuhan en 1911, qui est un lieu historique majeur et qui est même, je dirais, un lieu de mémoire français, puisque Paul Claudel, qui fut poète et diplomate, y a vécu pendant plusieurs années. Donc il y a encore des éléments, et puis une culture proprement wuhanaise, qui est une culture, je dirais, hybride sur le temps long, entre des influences venues du nord et des influences du sud, et notamment cantonaises.
Ouais, et justement, ces influences-là, alors on les ressent par exemple dans la cuisine ?
Ah oui, parce que c'est déjà une cuisine très épicée, un peu moins que celle du Sichuan, province voisine, mais on aime beaucoup aussi des plats tels que l'on en trouve également dans le nord. Donc vous voyez là aussi convergence entre plusieurs cultures, et notamment les fameux rou qui sont d'énormes cuves dans lesquelles vous allez plonger de la viande et qui donnent lieu évidemment à des rassemblements entre convives, et c'est d'une manière générale très chargé et en alcool et en sympathie et en voix assez bruyante, hein, même si de ce point de vue-là aussi, Wuhan comme le reste de la Chine se sont un peu aseptisés, il est vrai.
Alors vous nous parliez de cette ville qui effectivement n'a pas bonne presse en Chine, hein, c'est pas la ville où on rêve d'habiter, loin aussi peut-être des effets de mode de Pékin, de Shanghai, des looks des jeunes très très lookés. Est-ce que néanmoins il y a une culture propre à Wuhan dans la façon de s'habiller, de revendiquer aussi cette appartenance-là un peu régionaliste ?
C'est la culture du centre véritablement, et là aussi il y a une sorte de réinterprétation de codes qui nous viennent parfois là encore de Canton dans le domaine de la coiffure, dans le domaine de la pop aussi. Tout cela fait en sorte que Wuhan est une sorte de tremplin entre les villes du sud et les villes du nord. Assez curieusement, Wuhan, dans tous les domaines, retrouve son rôle de centralité, y compris d'un point de vue des phénomènes de mode. C'est un lieu aussi, disons-le carrément, qui longtemps, y compris jusqu'à la fin des années 90, était un lieu de très haute corruption, de rapines de toutes sortes.
C'est ça, c'était le petit Chicago, hein, on disait.
Oui, alors ça, c'est une expression qui datait des années 30, mais qui restait encore vivace, effectivement, dans tous les esprits. Et il y a eu quantité d'affaires de corruption, de caciques du régime, qui ont été purgées à Wuhan même. Ouais.
Alors, on va parler aussi dans quelques instants de la spiritualité à Wuhan, mais il faut qu'on écoute avec cette petite pause musicale la chanteuse Canto Pop qui est née à Wuhan dans les années 50. Pas là-dessus.
qua 那一片景象缤纷， 随风轻轻吹到你步进了我的心， 在一息间改变我一生， 付出多少热诚也没法去计得真， 却也不需再惊惧。 时季节变更，梦中醒却岁月如飞奔，是否早定下来你或我也会变心，慨叹怎么会苟合，终要分。狂风吹得起劲朗，日也要被蔽印，
Emmanuel Linco vient d'entendre Paula Tsui, donc une chanteuse qui est née à Wuhan. Il y a ce côté nostalgique, hein, qui, un peu de la résilience chinoise d'une certaine manière, non?
C'est un peu ça, ça évoque les films de Wong Kar-wai, hein, In the Mood for Love, tous ces grands classiques déjà. Et la chanson qu'on vient d'entendre s'appelle Funk Didier. Et donc c'est très nonchalant, ça évoque déjà les rythmes du Sud, un peu le Vietnam aussi. Et bon, c'est pas étonnant, effectivement, si cette chanteuse originaire de Wuhan est devenue par la suite l'une des chanteuses de la culture pop cantonaise les plus célèbres, parce que Wuhan est déjà l'antichambre à tout cela.
Vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, on peut pas parler de Wuhan sans parler de spiritualité. Pourquoi à Wuhan ?
Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau le plus laïque, je dirais que c'est le cœur de toutes les révolutions. Ça, j'y reviens, ça me paraît extrêmement important. être de Wuhan, c'est porter justement une certaine idée de la révolution. Et malgré tout, cette révolution continue. Il faut rappeler, c'est un état de fait, que la Chine est encore un état communiste, oui, et se réclamant du communisme. Bon.
Et qui a tendance quand même très largement à serrer la vis depuis quelques années.
Ah, ça, c'est évident, et de plus en plus.
Bien aperçu au moment des commémorations de Tiananmen.
Absolument. Bon. Mais il y a un autre aspect des choses, effectivement, qui rend Wuhan tout à fait passionnante. C'est un haut lieu des spiritualités à la fois taoïstes et bouddhistes. Pour une autre raison, ne jamais oublier que Wuhan est un grand port fluvial. Le Changjiang, c'est ainsi que les Chinois l'appellent, autrement le fleuve bleu, est la plus grande voie navigable, et de Chine est l'une des plus grandes du monde, c'est-à-dire 3000 km de voie navigable qui relie depuis Shanghai jusqu'au cœur des terres, jusqu'au plateau tibétain.
Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce fameux fleuve bleu, il ressemble à quoi ? Est-ce qu'il est vraiment bleu ?
Il est tout sauf bleu.
Est-ce qu'il est très large aussi ou pas, avec une telle longueur ?
Il est très large en son embouchure, absolument, et c'est un fleuve impétueux, c'est un fleuve que l'on redoute parce que, évidemment, vous avez toute une mythologie qui fait de ce fleuve justement un lieu d'accueil pour les divinités, bien sûr. Et puis, c'est un lieu important d'un point de vue de l'histoire de la batellerie. Et donc, qui dit batellerie, dit évidemment lieu de spiritualité, c'est-à-dire que ces ligues de bateliers, de commerçants, se retrouvaient dans l'espace des sanctuaires bouddhistes et autres. Et donc, cette région en particulier, jusqu'au début du XXe siècle, a été un haut lieu des sectes, telle que la secte du lotus blanc, et non pas le lotus bleu, auquel s'est référé malgré tout Hergé dans Tintin et le lotus bleu précédemment. Et donc l'histoire même de Tintin s'inspire de près ou de loin de ces sectes de la région du fleuve bleu précisément. Et Wuhan, encore une fois, en est le centre. Donc c'est extrêmement important parce que malgré l'éradication de toute la période maoïste contre les religions, oui, d'une manière générale, tous ces temples ont été reconstruits depuis lors. Et donc ce sont des lieux importants parce que dans cette période évidemment de doute, de perte de repères d'une manière générale, on s'attache évidemment à venir de nouveau prier Bouddha ou bien chercher la paix à l'abri d'un temple taoïste, voire même d'églises chrétiennes parce qu'elles sont aussi assez nombreuses.
Et la philosophie taoïste justement, avec cette géographie de cette ville qui a quand même rasé beaucoup de la mémoire, c'est-à-dire des bâtiments anciens, etc. À quoi on se raccroche finalement, aux éléments naturels, les lacs, les montagnes qui sont pas très loin de la ville ?
Absolument, qui sont...
Parce que c'est quoi la base de cette philosophie taoïste finalement ?
C'est effectivement faire corps, être en harmonie avec les grands éléments naturels. Et cette ville, effectivement, est traversée à la fois par le fleuve bleu, par l'un de ses affluents que l'on appelle la Han, mais aussi de grands lacs, et notamment le lac de l'Est. Donc vous êtes constamment entre terre, je ne dirais pas mer, mais la mer finalement est évoquée par la présence de ce fleuve extrêmement important, et c'est vrai, dans l'arrière-pays, des montagnes, et des montagnes d'origine volcanique. Donc tous les éléments effectivement sont convoqués, et la province du Hubei, dont la capitale est Wuhan, est l'un des hauts lieux de la spiritualité taoïste. En effet, il y a plusieurs grands temples taoïstes dans l'ouest de la province du Hubei.
Et c'est intéressant que vous nous parliez de ce lien des habitants avec les éléments naturels, alors que justement, précisément, la planète est tellement menacée, et en particulier cette ville qui est brûlante, nous disiez-vous, l'été, très froide l'hiver, et où le réchauffement climatique est très palpable, et qui donne lieu à des projets d'éco-quartier, etc., qui peuvent laisser encore un peu dubitatif, quoique les Chinois vont très vite en la matière. On arrive bientôt au terme de cette émission, Emmanuel Linco. Avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on entende une voix, très belle voix, qui est née à Wuhan. Thank you. Vous connaissez la voix de Yao Beina, Emmanuel Linco, je ne sais pas si je prononce bien.
Si, si, très bien, très bien. Effectivement,
qui est décédée il y a quelque temps, elle est morte très jeune. Hein.
Et qui était l'une des grandes voix, effectivement, de Wuhan, et qui rapporte, effectivement, par la douceur même de sa mélopée, l'extraordinaire contraste de cette ville. Ville très âpre, très dure, et en même temps, ville peut-être d'espoir, d'avenir, de restructuration vers une Chine meilleure.
Alors, je sais que vous dites souvent que Wuhan, qui n'est pas la ville la plus séduisante de Chine, hein, Emmanuel Linco, a été pour vous un passeport pour comprendre la Chine. Quel est, vous, votre lien personnel avec cette ville-là et encore aujourd'hui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle suscite en vous quand vous y retournez ?
C'est la ville de ma jeunesse, déjà. J'avais 25 ans, j'avais été nommé par le ministère français des Affaires étrangères comme lecteur à l'université de Wuhan. Et surtout, j'y ai créé...
Dans une Chine, à l'époque, assez fermée.
Dans une Chine totalement fermée, où il n'y avait pas Internet, où le courrier censuré vous parvenait avec un mois de retard, et où j'ai créé la première revue d'art contemporain chinois. Une revue trilingue, avant-garde chinoise, et qui a été effectivement un petit événement à l'échelle, évidemment, du pays, mais qui a permis néanmoins à nombre d'artistes, d'abord de Wuhan, puis de Pékin notamment, de se faire entendre et de se faire connaître auprès des galeristes étrangers, notamment français. Donc évidemment, c'est une ville très importante, mais au-delà de ma personne, c'est, je dirais, encore une fois, de par sa centralité à la fois historique et géographique, la ville qui vous permet de saisir la Chine. En tout cas, je l'ai vécu toujours ainsi, parce que elle est un lieu de convergence entre le nord et le sud, et c'est un champ de force également entre toutes les Chines.
Vous
apprendrez bien davantage sur la Chine dans son intégralité en étant à Wuhan qu'en étant à Pékin, paradoxalement.
Vous pensez à une histoire en particulier ?
Je pense à une histoire en particulier d'une étudiante que j'avais qui à l'époque a été renvoyée par les autorités universitaires chinoises parce qu'elle avait rencontré un contremaître français de PSA. Et cela est toujours resté gravé dans ma mémoire parce que ça nous renvoie à la dureté du régime mais aussi à cette discrimination qui reste très réelle dans l'espace même de la ville.
Et revenir à Wuhan, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toujours prendre le risque de ne rien reconnaître, de dire ça y est, tout a encore changé ou
tout change très vite.
Vous accrochez encore à des images, des odeurs, des...
Alors, en 95, de 95 à 97, quand j'y ai vécu d'une manière pratiquement continue, vous aviez pratiquement chaque semaine, effectivement, un quartier qui avait été bouleversé avec un gratte-ciel qui s'était construit en 3 jours, 4 jours.
Et aujourd'hui, alors, quand vous y retournez ?
Alors, aujourd'hui, les choses sont quelque peu apaisées et vous avez malgré tout des points de repère qui sont ceux, tout simplement, de la langue. C'est quelque chose qui n'est pas tangible tant que vous n'entrez pas, justement, en communion par la langue, mais la langue vous permet justement de vous renvoyer à une histoire sur la longue durée, notamment la vôtre.
Est-ce qu'il y a quelques mots que vous aimeriez dire en wuhanais ? Je sais que vous parlez d'abord le mandarin, bien évidemment, mais...
Wuhanren, Fubeiren, dont je suis de Wuhan, du Hubei, alors qu'en mandarin on dirait Wuhanren, Hubeiren. Donc vous voyez, il y a un changement assez considérable.
Merci à vous, Emmanuel Linco, de nous avoir fait partager ces moments de vie à Wuhan. Vous avez publié « Chine, une nouvelle puissance culturelle ?» point d'interrogation chez MKF Éditeur. À la réalisation, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, nous poursuivons notre série « Vivre en ville ». Vivre dans une ville aux 2500 ponts, Hambourg, en Allemagne.